Fort, Maximes et pensées. Chapitre 1er. Maxime générale. 1. Les maximes, les axiomes, sont ainsi que les abrégés, l'ouvrage des gens d'esprit qui ont travaillé, ce semble, à l'usage des esprits médiocres ou paresseux. Le paresseux s'accommode d'une maxime qui le dispense de faire lui-même les observations qui ont mené l'auteur de la maxime au résultat dont il fait part à son lecteur. Le paresseux et l'homme médiocre se croient dispensés d'aller au-delà et donnent à la maxime une généralité que l'auteur, à moins qu'il ne soit lui-même médiocre, ce qui arrive quelquefois, n'a pas prétendu lui donner. L'homme supérieur saisit tout d'un coup les ressemblances, les différences qui font que la maxime est plus ou moins applicable à tel ou tel cas, ou ne l'est pas du tout. Il en est de cela comme de l'histoire naturelle, où le désir de simplifier a imaginé les classes et les divisions. Il a fallu avoir de l'esprit pour les faire, car il a fallu rapprocher et observer des rapports. Mais le grand naturaliste, l'homme de génie, voit que la nature prodigue des êtres individuellement différents et voit l'insuffisance des divisions et des classes qui sont d'un si grand usage aux esprits médiocres ou paresseux. On peut les associer, c'est souvent la même chose, c'est souvent la cause et l'effet. 2. La plupart des faiseurs de recueils de vers ou de bons mots ressemblent à ceux qui mangent des cerises ou des huîtres, choisissant d'abord les meilleurs et finissant par tout manger. 3. Ce serait une chose curieuse qu'un livre qui indiquerait toutes les idées corruptrices de l'esprit humain, de la société, de la morale, et qui se trouve développé ou supposé dans les écrits les plus célèbres, dans les auteurs les plus consacrés. Les idées qui propagent la superstition religieuse, les mauvaises maximes politiques, le despotisme, la vanité de rang, les préjugés populaires de toute espèce. On verrait que presque tous les livres sont des corrupteurs, que les meilleurs font presque autant de mal que de bien. 4. On ne cesse d'écrire sur l'éducation, et les ouvrages écrits sur cette matière ont produit quelques idées heureuses, quelques méthodes utiles, ont fait, en un mot, quelques biens partiels. Mais quelle peut être, en grand, l'utilité de ces écrits, tant qu'on ne fera pas marcher de front les réformes relatives à la législation, à la religion, à l'opinion publique. L'éducation n'ayant d'autre objet que de conformer la raison de l'enfance à la raison publique, relativement à ces trois objets, quelle instruction donner tant que ces trois objets se combattent? En formant la raison de l'enfance, que faites-vous de la préparer à voir plutôt l'absurdité des opinions et des mœurs consacrées par le sceau de l'autorité sacrée, publique ou législative? Par conséquent, à lui en inspirer le mépris. 5. C'est une source de plaisir et de philosophie de faire l'analyse des idées qui entrent dans les divers jugements que porte tel ou tel homme, telle ou telle société. L'examen des idées qui déterminent telle ou telle opinion publique n'est pas moins intéressant et l'est souvent davantage. 6. Il en est de la civilisation comme de la cuisine. Quand on voit sur une table des mets légers, sains et bien préparés, on est fort aise que la cuisine soit devenue une science. Mais quand on y voit des jus, des coulis, des pâtés de truffes, on maudit les cuisiniers et leur art funeste à l'application. 7. L'homme, dans l'état actuel de la société, me paraît plus corrompu par sa raison que par ses passions. Ses passions, j'entends ici celles qui appartiennent à l'homme primitif, ont conservé dans l'ordre social le peu de nature qu'on y retrouve encore. 8. La société n'est pas, comme on le croit d'ordinaire, le développement de la nature, mais bien sa décomposition et sa refonte entière. C'est un second édifice bâti avec les décombres du premier. On en retrouve les débris avec un plaisir mêlé de surprise. C'est celui qu'occasionne l'expression naïve d'un sentiment naturel qui échappe dans la société. Il arrive même qu'il plaît davantage si la personne à laquelle il échappe est d'un rang plus élevé, c'est-à-dire plus loin de la nature. Il charme dans un roi parce qu'un roi est dans l'extrémité opposée. C'est un débris d'ancienne architecture dorique ou corinthienne dans un édifice grossier et moderne. 9. En général, si la société n'était pas une composition factice, tout sentiment simple et vrai ne produirait pas le grand effet qu'il produit. Il plairait sans étonner, mais il étonne et il plaît. Notre surprise est la satire de la société, et notre plaisir est un hommage à la nature. 10. Les fripons ont toujours un peu besoin de leur honneur, à peu près comme les espions de police, qui sont payés moins cher quand ils voient moins bonne compagnie. 11. Un homme du peuple, un mendiant, peut se laisser mépriser, sans donner l'idée d'un homme vil, si le mépris ne paraît s'adresser qu'à son extérieur. Mais ce même mendiant qui laisserait insulter sa conscience, fût-ce par le premier souverain de l'Europe, devient alors aussi vil par sa personne que par son état. 12. Il faut convenir qu'il est impossible de vivre dans le monde sans jouer de temps en temps la comédie. Ce qui distingue l'honnête homme du fripon, c'est de ne la jouer que dans les cas forcés et pour échapper au péril, au lieu que l'autre va au-devant des occasions. 13. On fait quelquefois dans le monde un raisonnement bien étrange. On dit à un homme, en voulant récuser son témoignage en faveur d'un autre homme, « C'est votre ami. » « Eh, morbleu, c'est mon ami, parce que le bien que j'en dis est vrai, parce qu'il est tel que je le peins. Vous prenez la cause pour les faits et les faits pour la cause. Pourquoi supposez-vous que j'en dis du bien? Parce qu'il est mon ami? Et pourquoi ne supposez-vous pas plutôt qu'il est mon ami? Parce qu'il y a du bien à dire? » 14. Il y a deux classes de moralistes et de politiques. Ceux qui n'ont vu la nature humaine que du côté odieux ou ridicule. Et c'est le plus grand nombre. Lucien, Montaigne, La Bruyère, La Rochefoucauld, Swift, Mandeville, Helvétius, etc. Ceux qui ne l'ont vu que du beau côté et dans ses perfections. Tels sont Shaftesbury et quelques autres. Les premiers ne connaissent pas le palais dont ils n'ont vu que les latrines. Les seconds sont des enthousiastes qui détournent leurs yeux loin de ce qui les offense et qui n'en existent pas moins. Est in medio puerum. 15. Veut-on avoir la preuve de la parfaite inutilité de tous les livres de morale, de sermons, etc.? Il n'y a qu'à jeter les yeux sur le préjugé de la noblesse héréditaire. Y a-t-il un travers contre lequel les philosophes, les orateurs, les poètes aient lancé plus de traits satiriques, qui aient plus exercé les esprits de toute espèce, qui aient fait naître plus de sarcasmes. Cela a-t-il fait tomber les présentations, la fantaisie de monter dans les carrosses? Cela a-t-il fait supprimer la place de Chérin? 16. Au théâtre, on vise à l'effet. Mais ce qui distingue le bon et le mauvais poète, c'est que le premier veut faire effet par des moyens raisonnables. Et pour le second, tous les moyens sont excellents. Il en est de cela comme des honnêtes gens et des fripons qui veulent également faire fortune. Les premiers n'emploient que des moyens honnêtes, et les autres, toutes sortes de moyens. 17. La philosophie ainsi que la médecine a beaucoup de drogues, très peu de bons remèdes et presque point de spécifiques. 18. On compte environ 150 millions d'âmes en Europe, le double en Afrique, plus du triple en Asie. En admettant que l'Amérique et les terres australes n'en contiennent que la moitié de ce que donne notre hémisphère, on peut assurer qu'il meurt tous les jours sur notre globe plus de 100 000 hommes. Un homme qui n'aurait vécu que 30 ans aurait encore échappé environ 1400 fois à cette épouvantable destruction. 19. J'ai vu des hommes qui n'étaient doués que d'une raison simple et droite, sans une grande étendue ni sans beaucoup d'élévation d'esprit. Et cette raison simple avait suffi pour leur faire mettre à leur place les vanités et les sottises humaines, pour leur donner le sentiment de leur dignité personnelle, leur faire apprécier ce même sentiment dans autrui. J'ai vu des femmes à peu près dans le même cas, qu'un sentiment vrai, éprouvé de bonheur, avait mis au niveau des mêmes idées. Il suit de ces deux observations que ceux qui mettent un grand prix à ces vanités, à ces sottises humaines, sont la dernière classe de notre espèce. 20. Celui qui ne sait point recourir à propos à la plaisanterie et qui manque de souplesse dans l'esprit se trouve très souvent placé entre la nécessité d'être faux ou d'être pédant, alternative fâcheuse à laquelle un honnête homme se soustrait pour l'ordinaire par de la grâce et de la gaieté. 21. Souvent, une opinion, une coutume, commence à paraître absurde dans la première jeunesse, et en avançant dans la vie, on en trouve la raison. Elle paraît moins absurde. En faudrait-il conclure que de certaines coutumes sont moins ridicules? On serait porté à penser quelquefois qu'elles ont été établies par des gens qui avaient lu le livre entier de la vie, et qu'elles sont jugées par des gens qui, malgré leur esprit, n'en ont lu que quelques pages. 22. Il semble que d'après les idées reçues dans le monde et la décence sociale, il faut qu'un prêtre, un curé, croie un peu pour n'être pas hypocrite, ne soit pas sûr de son fait pour n'être pas intolérant. Le grand vicaire peut sourire à un propos contre la religion. L'évêque y rire tout à fait, le cardinal y joindre son mot. 23. La plupart des nobles rappellent leurs ancêtres, à peu près comme un cicérone d'Italie rappelle Cicéron. 24. J'ai lu dans je ne sais quel voyageur que certains sauvages de l'Afrique croient à l'immortalité de l'âme. Sans prétendre expliquer ce qu'elle devient, Ils la croient errante après la mort dans les broussailles qui environnent leur bourgade et la cherchent plusieurs matinées de suite. Ne la trouvant pas, ils abandonnent cette recherche et n'y pensent plus. C'est à peu près ce que nos philosophes ont fait et avaient de meilleur à faire. 25. Il faut qu'un honnête homme ait l'estime publique sans y avoir pensé, et pour ainsi dire, malgré lui. Celui qui l'a cherché donne sa mesure. 26. C'est une belle allégorie dans la Bible que cet arbre de la science du bien et du mal qui produit la mort. Cet emblème ne veut-il pas dire que lorsqu'on a pénétré le fond des choses, la perte des illusions amène la mort de l'âme, c'est-à-dire un désintéressement complet sur tout ce qui touche et occupe les autres hommes? 27. Il faut qu'il y ait de tout dans le monde. Il faut que, même dans les combinaisons factices du système social, il se trouve des hommes qui opposent la nature à la société, la vérité à l'opinion, la réalité à la chose convenue. C'est un genre d'esprit et de caractère fort piquant et dont l'empire se fait sentir plus souvent qu'on ne croit. Il y a des gens à qui on n'a besoin que de présenter le vrai pour qu'ils y courent avec une surprise naïve et intéressante. Ils s'étonnent qu'une chose frappante, quand on sait la rendre telle, leur ait échappé jusqu'alors. 28. On croit le sourd malheureux dans la société. N'est-ce pas un jugement prononcé par l'amour-propre de la société qui dit « Cet homme-là n'est-il pas trop à plaindre de n'entendre pas ce que nous disons? » 29. La pensée console de tout et remédie à tout. Si quelquefois elle vous fait du mal, demandez-lui le remède du mal qu'elle vous a fait et elle vous le donnera. 30. Il y a, on ne peut le nier, quelques grands caractères dans l'histoire moderne et on ne peut comprendre comment ils se sont formés. Ils y semblent comme déplacés. Ils y sont comme des cariatides dans un entresol. 31. La meilleure philosophie relativement au monde est d'allier à son égard le sarcasme de la gaieté avec l'indulgence du mépris. 32. Je ne suis pas plus étonné de voir un homme fatigué de la gloire que je ne le suis d'en voir un autre importuné du bruit qu'on fait dans son antichambre. 33. J'ai vu dans le monde qu'on sacrifiait sans cesse l'estime des honnêtes gens à la considération et le repos à la célébrité. 34. Une forte preuve de l'existence de Dieu, selon Dorylas, c'est l'existence de l'homme par excellence, dans le sens le moins susceptible d'équivoque, dans le sens le plus exact, et par conséquent un peu circonscrit. En un mot, de l'homme de qualité. C'est le chef-d'œuvre de la Providence, ou plutôt le seul ouvrage immédiat de ses mains. Mais on prétend, on assure, qu'il existe des êtres d'une ressemblance parfaite avec cet être privilégié. Dorylas a dit, est-il vrai? Quoi? Même figure? Même conformation extérieure? Eh bien, l'existence de ces individus, de ces hommes, puisqu'on les appelle ainsi, qu'il a nié autrefois, qu'il a vu à sa grande surprise, reconnu par plusieurs de ses égaux, que par cette raison seule il ne nie plus formellement, sur laquelle il n'a plus que des nuages, des doutes bien pardonnables, tout à fait involontaires, contre laquelle il se contente de protester simplement par des hauteurs, par l'oubli des bienséances ou par des bontés dédaigneuses, l'existence de tous ces êtres, sans doute mal définis, qu'en fera-t-il? Comment l'expliquera-t-il? Comment accorder ce phénomène avec sa théorie? Dans quel système physique, métaphysique, ou s'il le faut mythologique, ira-t-il chercher la solution de ce problème? Il réfléchit, il rêve, il est de bonne foi. L'objection est spécieuse, il en est ébranlé. Il a de l'esprit, des connaissances. Il va trouver le mot de l'énigme. Il l'a trouvé, il le tient. La joie brille dans ses yeux. Silence. On connaît dans la théologie persane la doctrine des deux principes, celui du bien et celui du mal. Et quoi? Vous ne saisissez pas? Rien de plus simple. Le génie, les talents, les vertus sont des inventions du mauvais principe, d'Oriman, du diable, pour mettre en évidence, pour produire au grand jour, certains misérables plébéiens reconnus, vrais roturiers ou à peine gentilshommes. 35. Combien de militaires distingués, combien d'officiers généraux sont morts sans avoir transmis leur nom à la postérité. En cela, moins heureux que Bucéphale, et de même que le dogue espagnol Berestillo, qui dévorait les Indiens de Saint-Domingue et qui avait la paix de 3 soldats. 36. On souhaite la paresse d'un méchant et le silence d'un sot. 37. Ce qui explique le mieux comment le malhonnête homme, et quelquefois même le sot, réussissent presque toujours mieux dans le monde que l'honnête homme et que l'homme d'esprit à faire leur chemin, c'est que le malhonnête homme et le sot ont moins de peine à se mettre au courant et au ton du monde, qui en général n'est que malhonnêteté et sottise, au lieu que l'honnête homme et l'homme sensé, ne pouvant pas entrer sitôt en commerce avec le monde, perdent un temps précieux pour la fortune. Les uns sont des marchands qui, sachant la langue du pays, vendent et s'approvisionnent tout de suite, tandis que les autres sont obligés d'apprendre la langue de leurs vendeurs et de leurs chalands. Avant que d'exposer leurs marchandises et d'entrer en traité avec eux, souvent même, ils dédaignent d'apprendre cette langue. Et alors ils s'en retournent sans être aimés. 38. Il y a une prudence supérieure à celle qu'on qualifie ordinairement de ce nom. L'une est la prudence de l'aigle et l'autre celle des taupes. La première consiste à suivre hardiment son caractère en acceptant avec courage les désavantages et les inconvénients qu'il peut produire. 39. Pour parvenir à pardonner à la raison le mal qu'elle fait à la plupart des hommes, on a besoin de considérer ce que serait l'homme sans sa raison. C'était un mal nécessaire. 40. Il y a des sottises bien habillées, comme il y a des sots très bien vêtus. 41. Si l'on avait dit à Adam le lendemain de la mort d'Abel que dans quelques siècles, il y aurait des endroits où, dans l'enceinte de 4 lieues carrées, se trouveraient réunis et amoncelés 700 ou 800 000 hommes, aurait-il cru que ces multitudes pussent jamais vivre ensemble? Ne se serait-il pas fait une idée encore plus affreuse de ce qui s'y commet de crimes et de monstruosité? C'est la réflexion qu'il faut faire pour se consoler des abus attachés à ces étonnantes réunions d'hommes. 42. Les prétentions sont une source de peine, et l'époque du bonheur de la vie commence au moment où elles finissent. Une femme est-elle encore jolie au moment où sa beauté baisse? Ses prétentions la rendent ou ridicule ou malheureuse. 10 ans après, plus laide et vieille, elle est calme et tranquille. Un homme est dans l'âge où l'on peut réussir et ne pas réussir auprès des femmes. Il s'expose à des inconvénients et même à des affronts. Il devient nul. Dès lors, plus d'incertitude. Et il est tranquille. En tout, le mal vient de ce que les idées ne sont pas fixes et arrêtées. Il vaut mieux être moins et être ce qu'on est, incontestablement. L'état des ducs et pairs, bien constaté, vaut mieux que celui des princes étrangers, qui ont à lutter sans cesse pour la prééminence. Si Chapelain eût pris le parti que lui conseillait Boileau, par le fameux hémistiche que n'écrit-il en prose, il se fût épargné bien des tourments, et se fût peut-être fait un nom autrement que par le ridicule. 43. N'as-tu pas honte de vouloir parler mieux que tu ne peux, disait Sénèque à l'un de ses fils, qui ne pouvait trouver l'exorde d'une harangue qu'il avait commencée. On pourrait dire de même à ceux qui adoptent des principes plus forts que leur caractère. N'as-tu pas honte de vouloir être philosophe plus que tu ne peux? 44. La plupart des hommes qui vivent dans le monde y vivent si étourdiment, pensent si peu, qu'ils ne connaissent pas ce monde qu'ils ont toujours sous les yeux. « Ils ne le connaissent pas, disait plaisamment M. de B, par la raison qui fait que les hannetons ne savent pas l'histoire naturelle. » 45. En voyant Bacon, dans le commencement du XVIe siècle, indiquer à l'esprit humain la marche qu'il doit suivre pour reconstruire l'édifice des sciences, on cesse presque d'admirer les grands hommes qui lui ont succédé, tels que Boyle, Locke, etc. Il leur distribue d'avance le terrain qu'ils ont à défricher ou à conquérir. C'est César, maître du monde après la victoire de Pharsale, donnant des royaumes et des provinces à ses partisans ou à ses favoris. 46. Notre raison nous rend quelquefois aussi malheureux que nos passions. Et on peut dire de l'homme, quand il est dans ce cas, que c'est un malade empoisonné par son médecin. 47. Le moment où l'on perd les illusions, les passions de la jeunesse, laisse souvent des regrets. Mais quelquefois, on hait le prestige qui nous a trompés. Cette Armide qui brûle et détruit le palais où elle fut enchantée. 48. Les médecins et le commun des hommes ne voient pas plus clair les uns que les autres dans les maladies et dans l'intérieur du corps humain. Ce sont tous des aveugles. Mais les médecins sont des 15-20 qui connaissent mieux les rues et qui se tirent mieux d'affaires. 49. Vous demandez comment on fait fortune. Voyez ce qui se passe au parterre d'un spectacle le jour où il y a foule. Comme les uns restent en arrière, comme les premiers reculent, comme les derniers sont portés en avant. Cette image est si juste que le mot qu'il exprime a passé dans le langage du peuple. Il appelle faire fortune se pousser. Mon fils, mon neveu se poussera. Les honnêtes gens disent s'avancer, avancer, arriver, termes adoucis qui écartent l'idée accessoire de force, de violence, de grossièreté, mais qui laisse subsister l'idée principale. 50. Le monde physique paraît l'ouvrage d'un être puissant et bon, qui a été obligé d'abandonner à un être malfaisant l'exécution d'une partie de son plan. Mais le monde moral paraît être le produit des caprices d'un diable devenu fou. 51. Ceux qui ne donnent que leur parole pour garant d'une assertion qui reçoit sa force de ses preuves ressemblent à cet homme qui disait « J'ai l'honneur de vous assurer que la terre tourne autour du soleil. » 52. Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer. Dans les petites, ils se montrent comme ils sont. 53. Qu'est-ce qu'un philosophe? C'est un homme qui oppose la nature à la loi, la raison à l'usage, sa conscience à l'opinion et son jugement à l'erreur. 54. Un sot qui a un moment d'esprit étonne et scandalise, comme des chevaux de fiacre au galop. 55. Ne tenir dans la main de personne, être l'homme de son cœur, de ses principes, de ses sentiments, c'est ce que j'ai vu de plus rare. 56. Au lieu de vouloir corriger les hommes de certains travers insupportables à la société, il aurait fallu corriger la faiblesse de ceux qui les souffrent. 57. Les trois quarts des folies ne sont que des sottises. 58. L'opinion est la reine du monde parce que la sottise est la reine des sots. 59. Il faut savoir faire les sottises que nous demande notre caractère. 60. L'importance sans mérite obtient des égards sans estime. 61. Grands et petits, on a beau faire, il faut toujours se dire comme le fiacre aux courtisanes dans le moulin de Javel. Vous autres et nous autres, nous ne pouvons nous passer les uns des autres. 52. Quelqu'un disait que la Providence était le nom de baptême du hasard. Quelque dévot dira que le hasard est un sobriquet de la Providence. 53. Il y a peu d'hommes qui se permettent un usage vigoureux et intrépide de leur raison, et osent l'appliquer à tous les objets dans toute sa force. Le temps est venu où il faut l'appliquer ainsi à tous les objets de la morale, de la politique et de la société, aux rois, aux ministres, aux grands, aux philosophes, aux principes des sciences, des beaux-arts, etc. Sans quoi, on restera dans la médiocrité. 64. Il y a des hommes qui ont le besoin de primer, de s'élever au-dessus des autres, à quelque prix que ce puisse être. Tout leur est égal, pourvu qu'ils soient en évidence sur des tréteaux de charlatans. Sur un théâtre, un trône, un échafaud, ils seront toujours bien s'ils attirent les yeux. 65. Les hommes deviennent petits en se rassemblant. Ce sont les diables de Milton, obligés de se rendre pygmées pour entrer dans le pandémonium. 66. On anéantit son propre caractère dans la crainte d'attirer les regards et l'attention, et on se précipite dans la nullité pour échapper au danger d'être peint. 67. Les fléaux physiques et les calamités de la nature humaine ont rendu la société nécessaire. La société a ajouté au malheur de la nature. Les inconvénients de la société ont amené la nécessité du gouvernement, et le gouvernement ajoute au malheur de la société. Voilà l'histoire de la nature humaine. 68. L'ambition prend aux petites âmes plus facilement qu'aux grandes, comme le feu prend plus aisément à la paille, aux chaumières, qu'au palais. 69. L'homme vit souvent avec lui-même et il a besoin de vertu. Il vit avec les autres et il a besoin d'honneur. 70. La fable de Tantale n'a presque jamais servi d'emblème qu'à l'avarice, mais elle est pour le moins autant celui de l'ambition, de l'amour de la gloire, de presque toutes les passions. 71. La nature, en faisant naître à la fois la raison et les passions, semble avoir voulu, par le second présent, aider l'homme à s'étourdir sur le mal qu'elle lui a fait par le premier, et en ne les laissant vivre que peu d'années après la perte de ses passions, semble prendre pitié de lui en le délivrant bientôt d'une vie qui le réduit à sa raison pour toute ressource. 72. Toutes les passions sont exagératrices et elles ne sont des passions que parce qu'elles exagèrent. 73. Le philosophe qui veut éteindre ses passions ressemble au chimiste qui voudrait éteindre son feu. 74. Le premier des dons de la nature est cette force de raison qui vous élève au-dessus de vos propres passions et de vos faiblesses, et qui vous fait gouverner vos qualités mêmes, vos talents et vos vertus. 75. Pourquoi les hommes sont-ils si sots, si subjugués par la coutume ou par la crainte de faire un testament, en un mot, si imbéciles qu'après eux, ils laissent aller leur bien à ceux qui rient de leur mort plutôt qu'à ceux qui la pleurent? 76. La nature a voulu que les illusions fussent pour les sages comme pour les fous, afin que les premiers ne fussent pas trop malheureux par leur propre sagesse. 77. À voir la manière dont on en use envers les malades dans les hôpitaux, on dirait que les hommes ont imaginé ces tristes asiles non pour soigner les malades, mais pour les soustraire au regard des heureux, dont ces infortunés troubleraient les jouissances. 78. De nos jours, ceux qui aiment la nature sont accusés d'être romanesques. 79. Le théâtre tragique a le grand inconvénient moral de mettre trop d'importance à la vie et à la mort. 80. La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. 81. La plupart des folies ne viennent que de sottises. 82. On fausse son esprit, sa conscience, sa raison, comme on gâte son estomac. 83. Les lois du secret du dépôt sont les mêmes. 84. L'esprit n'est souvent au cœur que ce que la bibliothèque d'un château est à la personne du maître. 85. Ce que les poètes, les orateurs, même quelques philosophes, nous disent sur l'amour de la gloire, on nous le disait au collège, pour nous encourager à avoir les prix. Ce que l'on dit aux enfants pour les engager à préférer à une tartelette les louanges de leur bonne, c'est ce qu'on répète aux hommes pour leur faire préférer à un intérêt personnel les éloges de leurs contemporains ou de la postérité. 86. Quand on veut devenir philosophe, il ne faut pas se rebuter des premières découvertes affligeantes qu'on fait dans la connaissance des hommes. Il faut, pour les connaître, triompher du mécontentement qu'ils donnent, comme l'anatomiste triomphe de la nature, de ses organes et de son dégoût pour devenir habile dans son art. 87. En apprenant à connaître les maux de la nature, on méprise la mort. En apprenant à connaître ceux de la société, on méprise la vie. 88. Il en est de la valeur des hommes comme de celle des diamants, qui, à une certaine mesure de grosseur, de pureté, de perfection, ont un prix fixe et marqué, mais qui, par-delà cette mesure, restent sans prix et ne trouvent point d'acheteur.